Je vous propose pour ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Avec moi, le texte va s'afficher, mais vous pouvez ouvrir votre texte. Et je ne sais pas ce par quoi vous passez. Je n'ai pas connaissance des circonstances, en tout cas, de tout le monde individuellement. On se connaît, on sait à peu près ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Il y a quelquefois des choses que les uns et les autres vivent. Et alors, on a beau s'encourager à se dire, voilà, le Seigneur nous invite à l'aimer, à aimer notre prochain, à être dans l'obéissance et de marcher dans la lumière, comme ça a été rappelé les trois derniers messages. Quelquefois, eh bien, voilà, toutes ces choses-là, on les sait, et malgré tout, on perd des perspectives, n'est-ce pas ? On est là, on se dit, mais je fais tout ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et peut-être qu'on peut se sentir lassé ou blasé, et on se dit, voilà, je donne ma vie, je donne ce que je suis pour le Seigneur, et qu'est-ce que ça a comme importance ? Est-ce que ça vaut véritablement le coup ? Et dans le texte que nous voulons ouvrir ce matin, dans l'Apocalypse, eh bien, il y a là quelque chose de tout à fait particulier pour chacun d'entre nous. Dieu nous ouvre les cieux, une porte ouverte dans le ciel pour que nous voyons ce qui se passe là-haut, pour pouvoir comprendre dans quelles circonstances nous vivons. Ce qui est la base, ce que nous vivons en tant que chrétiens, c'est dans quelles circonstances que nous le vivons, et être encouragés ensemble dans la vie chrétienne que nous voulons mener, comme ça a été dit, à la gloire de Dieu. Alors, je vais, dans un premier temps, faire une lecture commentée. Alors, pourquoi commentée ? Parce que ce n'est pas si facile de tout comprendre, ce qu'il y a comme image dans ce texte, et que si, eh bien, je prends du temps après, ça va durer trop longtemps, donc vous me pardonnerez, mais il y a des choses qui ne sont pas marquées, qui ne sont pas affichées, que je vais rajouter pour que nous puissions comprendre ce qui est dit dans ce texte-là. Est-ce que vous me pardonnez ? Voilà. Ne confondez pas la parole de Dieu et ma parole, en tout cas mes explications, mais ça nous permettra d'avoir là une lecture qui sera plus claire pour ne pas avoir à reprendre après tout le texte. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi dans l'esprit, par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, de rubis. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude vert. Un trône très coloré, donc. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. 24, c'est le chiffre de la représentation. Quand on veut représenter, quand on veut avoir une représentation de quelque chose, on met 24 dans la Bible. Il y avait 24 sacrificateurs qui représentaient l'ensemble des sacrificateurs dans le temple de l'Ancienne Alliance. 24, c'est donc le chiffre de la représentation de ceux qui ont pour ministère ces anciens de servir l'adoration de Dieu. Ces 24 anciens étaient assis, habillés de vêtements blancs et portant des couronnes. Pas des couronnes comme les couronnes de roi. Couronne de roi, en grec, ça se dit diadème. Ça, c'est des couronnes, Stéphanos, qui sont des couronnes que l'on donne à des gens qui ont vaincu quelque chose. Les Jeux Olympiques, vous savez, on met des couronnes sur la tête. Donc ce sont des couronnes de vainqueurs, de récompenses qu'ils ont sur la tête, qui sont en or. Du trône, là, face à ce trône, eh bien, il y a cette idée de jugement, cette idée d'autorité. sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. L'esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre. La mer de verre, c'est souvent le peuple, les peuples de la terre, les foules de nations qui sont là. La mer est transparente, Dieu voit ces nations. Une mer de verre qui a la transparence du cristal. Ah, merci. J'en suis où là ? Merci. Devant le trône, il y a aussi, je l'ai dit, comme une mer qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts, Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Alors, les quatre êtres vivants représentent l'intégralité de la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas ? Et le lion, c'est celui qui symbolise la majesté de tout ce que Dieu a créé. Qui symbolise la majesté, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Le deuxième, un taureau. Là, c'est plutôt le symbole du travail. Le taureau qui va travailler dans les champs, qui a de la force, qui persévère dans le travail. Le quatrième ressemble à un aigle. Le troisième, a le visage d'un homme qui est là, le symbole de l'intelligence qui est donnée à l'homme pour le distinguer, n'est-ce pas, des animaux. Et le quatrième ressemble à un aigle. Et là, c'est le symbole de la souveraineté. Donc ces quatre êtres vivants vont symboliser la création et tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle a comme autorité, comme intelligence, qu'elle a comme travail et comme souveraineté, voilà, en plein vol. Et les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils sont couverts, Dieu, autour et à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, ils sont capables de voir correctement les choses. Couverts, Dieu, ça veut dire qu'il n'y a aucun champ de vision qui leur manque, n'est-ce pas ? C'est une des capacités qui sont données à ces quatre êtres vivants. Et de cette capacité de voir, je continue la lecture, ils ne cessent de dire... Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire et honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles, et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Toi, le Saint, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Nous avons là cette première scène qui est une scène qui, sans équivoque, sans aucune ombre, sans aucune contestation, sans aucun faux semblant, affirme que Dieu est en place, qu'il a créé toutes choses et qu'il est sur son trône. Et que c'est lui qui mérite l'adoration, l'honneur et la gloire. Quand nous lisons la suite de la lecture, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux, des cachets, pour le fermer. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, mais ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir les sept sceaux du livre. Et puis je vis au milieu du trône, Il y a le trône qui est là déjà, n'est-ce pas, hein ? Et on voit toute cette puissance, cette autorité qui est là. Et au milieu, tout d'un coup, une autre identité qui est là. Et cette identité, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Et donc, des quatre vivants, êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau. Un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Un agneau comme offert en sacrifice. Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est l'agneau de Dieu qui est donné en sacrifice pour nous. Et il avait sept cornes. Encore là, c'est l'image de l'autorité. La corne, c'est l'autorité. Et les sept cornes, c'est l'autorité absolue du Seigneur. Comme le dira le Seigneur dans Matthieu chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, n'est-ce pas ? » Et il est aussi paré de sept yeux. Cet agneau, il a un discernement sur toutes choses. Il voit toutes choses qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que j'ai déjà dépassé ou pas ? Non, pas encore. J'ai dû faire un découpage différent de celui qui est. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfum. Angèle, hein, il y avait une harpe dans le ciel. Hein. Elle est où, Angèle ? N'est-ce pas ? Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de reprendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait des rois, des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et je regardais, et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils étaient des myriades de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer et sur la mer. Tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les siens se prosternèrent et adorèrent. Ils jetèrent leur couronne pour adorer cet agneau. C'est Jean, le disciple, puis l'apôtre qui a rapporté ce texte. C'est lui qui a été enlevé au ciel pour voir cette scène et qui nous l'a décrit. Jean était exilé. Il était dans cette île à cause de sa foi. Il avait été attrapé et on l'avait fait prisonnier et envoyé dans cette île de Patmos. Dans ces circonstances-là, je pense qu'il pouvait se poser un peu comme nous la question « Waouh, 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 être chrétien, c'est pas si facile que ça, n'est-ce pas ?» Il pouvait se dire « Tiens, il y a beaucoup de choses qui sont là dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'obligations, nous avons le souhait là de vivre une vie qui vaut le coup, nous avons aussi beaucoup de contraintes, nous avons aussi des imprévus, peut-être des maladies, des choses qui viennent nous faire face. » Des difficultés aussi qui occupent notre quotidien. Et Jean, nous sommes fixés sur tout cela. Et c'est bien normal. Le chrétien n'est pas appelé à avoir la tête là qui s'échappe de la réalité de cette terre. Et nous essayons, vous et moi, de faire aussi bien que possible en tant que chrétiens avec ce que nous sommes, ce que nous avons, n'est-ce pas ? Et nous avançons là. Le Seigneur nous donne une vraie liberté d'action. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais le Seigneur nous donne la liberté de faire beaucoup de choses. Et il nous laisse la capacité de prendre des choix, de faire des choix. Il nous donne aussi tout un tas de choses pour pouvoir vivre une vie qui est à sa gloire. voulons, n'est-ce pas, vous et moi, être des gens qui avançons avec sagesse dans, ce cœur, dans nos cœurs, sur cette terre. Mais force est de constater que nous sommes très occupés par tout ce qu'il y a dans nos vies, n'est-ce pas ? Nous sommes même très souvent préoccupés par toutes ces choses qui sont là. Ce fut la même chose pour les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, et en particulier ceux du premier siècle, ont très souvent été arrêtés, ont été faits prisonniers. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils annonçaient l'amour de Dieu. Ils montraient et ils voulaient témoigner de leur amour vis-à-vis des autres, comme nous cherchons à le faire aussi. Et ils étaient pris pour cible. Ils étaient mis à mort, etc., etc. Eux-mêmes ne comprenaient pas trop ce qu'il se passait. On pourrait citer, par exemple, Étienne. Vous connaissez le témoignage d'Étienne qui nous est rapporté dans Actes au chapitre 7. Ce serviteur de Dieu, cet homme dans l'Église, est fait prisonnier et tout d'un coup, on veut le mettre à mort parce qu'il croit que Jésus-Christ est le Messie. Et tout d'un coup, eh bien, là, il est face à ces gens qui veulent le tuer et qui commence à prendre des pierres pour le lapider, parce qu'il considère qu'il blasphème contre Dieu, alors qu'il aime Dieu de tout son cœur. Et Étienne, tout d'un coup, la Bible nous dit qu'il voit, quoi ? Le ciel. Il voit le ciel, un peu comme Jean va le voir, il voit cette porte qui s'ouvre, cette fenêtre vers ce qu'il y a au ciel, et il dit, je vois le Seigneur, et je vois Jésus-Christ qui est à sa droite. Et là, ils vont le tuer. Mais là encore une fois, notre quotidien n'est pas si facile que ça et nous avons besoin de voir ce qu'il y a derrière tout cela. Nous avons besoin de regarder l'horizon, les perspectives que l'on peut avoir. Chaque fois que l'on regarde la parole de Dieu, on se rend compte et que Dieu donne des perspectives, Dieu donne un horizon, Dieu donne un but aux gens qui sont dans la parole de Dieu. Par exemple, je vous pose des questions, Abraham, quel était l'horizon que Dieu lui donnait ? Quelle était la destination, le but qui lui a été donné ? Je sais. Tu vas avoir un enfant, un fils, et tu vas donner naissance à un peuple. Et tu auras un territoire, d'accord ? Et quand on continue l'histoire, il a été donné à ce même peuple qui était exilé après et qui était prisonnier en Égypte, encore une autre fois, une promesse, la terre qui sera promise. Je vous donnerai Canaan, etc., etc. Et puis après, quand le temple a pu être construit, eh bien là, on a dit, il va y avoir un roi qui va venir. Et Jésus-Christ est venu comme le roi des rois, et toutes ces, on va dire, ces perspectives, ces horizons que Dieu a donnés à ses enfants, eh bien, aujourd'hui se sont réalisées. Toutes ces choses se sont réalisées. La parole de Dieu s'est accomplie. Même si tous n'ont pas vu ces choses-là. Nous le savons, elles se sont réalisées. Et quelle est notre montagne à nous ? Quelle est notre perspective qui va finalement faire en sorte qu'on arrête de regarder nos pieds, qu'on arrête de se regarder soi-même, qu'on arrête de se dire « Oh là là, c'est compliqué, c'est dur ». Quelle est la perspective que la Bible nous donne ? L'horizon que Dieu nous donne à nous, c'est ce ciel. C'est ce que nous voyons dans ce texte-là. Dieu ouvre le ciel pour nous aider à voir ce qu'il y a là derrière. Pourquoi est-ce qu'il ouvre le ciel ? Il ouvre le ciel. Ah, pourquoi ça ne se voit pas ? Ah mince, ça ne se voit pas. Dommage. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en couleur sombre. Excusez-moi, je vais le dire. Il a ouvert le ciel pour que tout le monde sache. Tout le monde sache. Tout le monde doit savoir. Et c'est ce qu'il nous est dit dans ce texte, qu'il y a quelqu'un sur le trône. Et que ce n'est pas un homme. Et que ce quelqu'un qui est sur ce trône, eh bien, est beau, magnifique, qu'il a autorité, qu'il a sa place, qu'il règne, qu'il est le créateur. On dit en grec le pantocrator, celui qui a tout créé, le tout-puissant. Et que ce quelqu'un va juger la terre et ses habitants, c'est lui qui décide de l'avenir de l'être humain, de l'avenir de la planète. C'est pourtant, quand on lit la suite du livre de l'Apocalypse, on se rend compte de ce pouvoir que Dieu a sur l'avenir de la planète, de l'avenir de l'être humain. Bien, il ouvre les yeux pour que vous et moi, nous comprenions qu'il est sur le trône. Deuxièmement, il ouvre les yeux pour que nous comprenions qu'il voit ce qu'il se passe, qu'il sait ce qu'il se passe, qu'il est tout à fait au clair de ce qu'il y a sur cette terre et ce qui se vit sur cette terre. Et troisièmement, il veut que nous voyons quelle est la place de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est sur le trône, au milieu du trône. Il a l'adoration. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui a l'autorité pour pouvoir ouvrir ce livre, fameux livre, avec tout ce qui va suivre après l'histoire de la fin des temps et de l'humanité. Et que cet agneau de Dieu, Jésus-Christ, il est décrit comme ayant le même droit à l'honneur, à l'adoration et à l'autorité que le Tout-Puissant. Évidemment, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même aussi. Il mérite tout cela. Eh bien, nous devons savoir cela. Quand nous vivons au jour le jour, quand nous faisons des projets, quand nous voulons avancer dans la vie chrétienne, nous devons comprendre quelle est l'autorité de celui qui est dans les cieux. Quelle est l'autorité de celui que nous avons choisi comme Sauveur et Seigneur. Comprendre sa grandeur. Comprendre aussi que, il va un jour juger. Comprendre aussi que, il est là et il a tout pouvoir. Mais qu'est-ce que ça doit avoir comme impact pour moi de voir ce Seigneur dans le ciel? Pourquoi est-ce que c'est important de voir cette fenêtre, de voir ce paysage, en tout cas de voir cette scène qui est dans le ciel? C'est important pour pouvoir être encouragé et pour pouvoir aussi réagir et faire un choix. Faire un choix. Là, Jean est invité à monter dans le ciel et il lui est dit « Montre et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Monte et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Celui qui était, qui est maintenant et qui vient. Il a toute chose entre ses mains. Il a le temps, il a le timing entre ses mains. Ce que nous croyons, ce que nous voulons vivre, ce que nous vivons, n'est pas sorti d'un chapeau de magicien, une idée qui est tout d'un coup sortie de l'idée de quelqu'un qui nous a dit « ça serait bien que les gens fassent ça ». Ça vient de celui qui était, qui est et qui vient. Et un jour, nous serons face à cette majesté et nous ferons face à lui, face à celui qui finalement est mort pour nous. Et Jean, il va voir tout cela et il va être ébloui et il va se rendre compte des choses comme elles sont, comme le Seigneur nous dit qu'elles sont. Jean a connu Jésus homme, et là, il voit Jésus, souverain absolu sur toute la création, sur toute vie. Il a eu ce privilège-là de comprendre qui est Jésus-Christ fait homme, mourir pour nos péchés, et qui est Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu. Je le disais, nous vivons les pieds sur terre. Nous sommes donc influencés par ce qui se passe dans nos vies. Mais nous devons, en tant que chrétiens, avoir les yeux sur ce tableau céleste. Nous devons avoir les yeux là, tournés, pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre ce qui doit inspirer notre action, pour comprendre ce qui doit avoir un impact dans notre vie. Pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité suprême, qui a les choses entre ses mains. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus qui a toutes choses entre ses mains. Et c'est de cela dont on doit prendre conscience pour pouvoir mettre en œuvre notre vie. Mes amis, souvent en tant que chrétien, on est toujours en train de se dire « il faut faire plus ». Les chrétiens, nous, on est des adeptes du plus. Voilà. Plus de ceci, plus de cela. Mais ce n'est pas ça que nous dit ce texte. Ce texte nous dit qu'il faut faire en fonction de celui qui règne. Ce n'est pas « ah, je suis chrétien, je vais faire plus, plus, plus ». C'est « je vais faire en fonction de celui qui règne ». Pas en fonction de l'ambiance dans laquelle je suis, pas par rapport au comportement des autres, par rapport à mon entourage, par rapport aux circonstances dans lesquelles je suis. Nous sommes invités dans ce texte à regarder et à considérer qu'il y a besoin de régler notre vie par rapport à ce paysage céleste qui est devant nos yeux. Et vous avez, je vous l'ai dit, hein, il y a sur la tête de ces anciens des couronnes de récompenses, des récompenses. Ce sont des récompenses qui sont reçues parce qu'ils ont, pendant leur vie, pris soin de servir le Seigneur, de faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Ils ont peut-être fait beaucoup d'efforts, ils ont peut-être été sacrifiés. Ils ont fait des sacrifices, peut-être qu'ils ont pris aussi le temps de beaucoup d'actions. Ce que nous lisons dans ce texte, c'est que eh bien, ces couronnes-là vont finalement être déposées au pied du Seigneur. Ce que nous faisons dans la vie chrétienne, ce que nous faisons par la force que le Seigneur nous donne, ces récompenses un jour seront déposées au pied de celui qui est sur le trône et de l'agneau. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a beau être les meilleurs. Moi, si Cramayel au top, c'est pas ça qui compte. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des gens qui devons rendre à Dieu ce culte que nous avons rendu ce matin. Un culte d'adoration avec un cœur vrai et sincère. Nous devons être des gens qui mettons notre vie au service de ce Dieu qui est le maître absolu. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez les yeux ouverts sur ce qu'il y a dans le ciel ? Ou est-ce que vous vivez cette vie en fonction de votre compte en banque, de vos voisins, de ce que vous propose peut-être telle ou telle chaîne de luxe comme perspective? Les chrétiens, nous sommes là sur cette terre pendant un temps qui nous est donné, qui peut être court ou qui peut être long, ce n'est pas nous qui décidons. Mais en tout cas, ce passage nous invite à considérer avec beaucoup d'importance ce que nous faisons ici-bas, pour pouvoir là faire des choses qui ont de la valeur et qui plaisent à notre Seigneur et à notre Sauveur. Je voulais vous partager ce texte tout simplement parce que c'est le texte que moi je me relis et que je me relis et que je me relis quand je me dis « mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Pourquoi je prends tant de temps ? Pourquoi je... » voilà. Et je me dis, oui, je sais pourquoi je fais, je sais pour qui je le fais. Et je vous invite à avoir cette vision des choses-là, pour qui nous le faisons. Nous le faisons pour celui, et je terminerai par ces versets qui nous sont donnés à la fin du chapitre 5. Toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Revienne, revienne la louange, revienne l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les anciens qui sont nos représentants dans le ciel, ils font quoi ? Ils n'ont pas d'autre choix que de se prosterner et d'adorer. Mais oui, c'est la réalité. On se prosterne et on adore. Comme nous a invité ce matin Florian de le faire, nous voulons encore prendre le temps ce matin de prier pour que le Seigneur nous aide à avoir une vie qui ait du poids devant lui. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ce texte où nous voyons ce qui est là, Seigneur, la réalité spirituelle. Merci pour ces moments où nous pouvons s'encourager. Notre Dieu, nous voulons avoir les yeux rivés sur ton trône. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous savons très bien que nous sommes, Seigneur, tellement peu de choses. Et que ce n'est pas nous qui avons les choses entre nos mains. Nous savons que nos vies, Seigneur, elles sont faites de beaucoup de préoccupations. Et nous venons devant toi, Seigneur, afin que nos vies soient surtout faites de choses qui t'honorent. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à avoir toujours cette perspective devant les yeux, que tu es dans le ciel et que tu règnes. Nous voulons te demander de nous aider jour après jour à tenir le cap. Seigneur, pour ceux qui sont en difficulté de santé, pour ceux qui sont en difficulté personnelle, en difficulté, Seigneur, peut-être autre, matérielle, Seigneur, que nous puissions tous avoir les yeux fixés sur toi. Car c'est toi, Seigneur, qui dois guider notre vie. Seigneur, que nous soyons de ces gens qui montrent autour de nous que quoi que soit notre condition, quelle qu'elle soit, nous sommes dans la joie de te connaître comme Seigneur et comme Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.